Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre. Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 5, 6, 7, 8.
Pendant ces 3 mois, le truc, la carotte, comme on avait fini par l'appeler entre nous, n'avait pas bougé. Ça ne pouvait donc pas nous donner beaucoup plus d'informations que ça. Thierry Desablos. Son départ, aussi rapide, semblait étrange. J'en profitais pour visionner un petit peu les vidéos. Il était arrivé à 150 ou 200 mètres, avait envoyé le robot lumière, comme je l'avais fait initialement. Son visage s'était décomposé. Il avait tourné le dos et il était parti, presque en courant, comme s'il y avait une menace. En visionnant bien, sur la caméra, de face, on le voyait prononcer quelque chose. Un juron. C'est un peu par hasard que je me suis dit, sait-on jamais. J'ai donc fait un gros travail sur l'audio de cette vidéo, précisément à cet endroit-là. Non, ce n'était pas un juron. C'était bien un mot, plusieurs syllabes, 3 syllabes. Avec la distance et le brouhaha des robots transportant les containers un peu plus loin, impossible de savoir exactement ce qu'ils disaient. J'allais avoir besoin d'un coup de main. Et puis surtout, une fois le mot découvert, j'allais avoir besoin de savoir ce que ça voulait dire, de manière totalement discrète. Et ça, aussi, demandait une pointure. Coup de chance, j'en connaissais une. Sur une Arsémis, j'avais fréquenté des gens peu fréquentables. Il s'appelait Gus. Il était vieux. Aujourd'hui, j'avais la quarantaine. Lui devait avoir plus de 70 ans. Il avait connu la création du NetPuge, une sorte de sous-réseau totalement occulte, encore plus profond que ce que l'on a pu appeler à un moment le Dark Web. On n'achète plus les ordinateurs aujourd'hui. On les loue. L'ordinateur ne nous appartient pas et tout ce qu'il y a dessus non plus. Si jamais je tape un mot qui n'existe pas et qui n'est nulle part ailleurs sur le monde digital, alors, n'importe qui à l'autre bout du monde, s'il fait une recherche, précisément, quelques minutes après, sur ce mot, et bien sûr, s'il a payé les montants qui vont bien, peut le trouver, peut savoir que c'est moi qui l'ai tapé sur mon ordinateur. Quant à moi, bien sûr, en ayant payé, encore plus cher, je peux savoir que quelqu'un a cherché ce mot, et potentiellement même savoir qui c'est. Dans le cas qui nous occupe, quel que soit le mot que ce spécialiste avait prononcé, je n'avais guère envie qu'on sache que je m'y intéressais. Gus, lui, tapait directement à la source. C'est un peu comme s'il avait accès à la base de données. Un pirate exceptionnel. J'ai jamais bien compris comment est-ce que ça pouvait marcher. Lui, en tout cas, il le savait. Je l'avais croisé par hasard. Croisé. J'ai jamais su où il habitait. Certainement pas sur une Arsémis. Digitalement, je l'avais croisé, lors d'une enquête. Et, par la suite, nous avions entretenu une correspondance, discrète, mais assez régulière. Je faisais appel à lui pour m'aider dans certaines enquêtes, et en échange, c'est vrai. Je lui donnais des informations et, parfois, quelques mots de passe. Je n'ai jamais eu la preuve que les mots de passe que je lui avais donnés avaient pu servir pour de mauvaises choses. Je n'ai jamais eu non plus la preuve que ça avait servi ou que ça avait servi pour de bonnes choses. Mais bon, au bout d'un moment, on se dit que ce n'est pas vraiment de la corruption. C'est une sorte d'indicateur. Et puis, ce n'était pas pour mon intérêt personnel. J'avais continué à le faire alors que je savais depuis belle lurette que je ne pourrais plus grimper dans la hiérarchie. Non, simplement, ça m'aidait dans mes enquêtes. Et parfois, c'était bien utile, et les enquêtes aussi étaient utiles. Du coup, je faisais ça plutôt pour le bien commun. Sans lui, cette affaire de trafic d'esclaves, que certains voulaient transformer en bombe biologique, n'aurait jamais pu être arrêtée à temps. Bref, Gus pouvait quelque chose pour moi, c'était le moment de le recontacter. Denis, qui avait décidément le bras très très long, me fit parvenir un truc incroyable, que j'avais déjà vu dans des films, mais en avoir un là, sous la main. Une mallette de cryptage, un truc militaire, plus confidentiel que ça, tu meurs. Le simple fait d'avoir ça entre les mains, déjà c'était signé mon arrêt de mort si jamais quelqu'un la prenait. C'est un système tout simple, que l'on branchait sur une ligne normale, et qui cryptait toute la communication. Il y avait une espèce de cylindre en métal, sur lequel, pratiquement au niveau moléculaire, on avait gravé des systèmes de cryptage. Tellement puissants que, même les intelligences artificielles les plus puissantes de notre époque, auraient mis des années à comprendre. Bien sûr, il était conseillé d'utiliser plusieurs langues et les références personnelles avec son interlocuteur. Mais en tout cas, c'était la sécurité absolue que tout ce qui transiterait par là ne serait pas décrypté. En face, il fallait clier la même mallette et le même cylindre, ce qui était un problème. Et là encore, Denis me fit halluciner, car à côté de la mallette et du cylindre, il y avait un micro-ordinateur avec une petite carte. Ça aussi, je l'avais vu dans les films. En branchant l'un sur l'autre, on pouvait prendre le contrôle du récepteur et faire en sorte, même si lui n'avait pas la mallette, de décrypter au niveau du récepteur, et donc tout est décrypté de lui à moi, simplement avec mon matériel. Ça promettait. Le rendez-vous fut pris normalement, mais Dès l'ouverture de la ligne, je branchais les deux systèmes, tout en étant intimement persuadé qu'il le comprendrait tout de suite et qu'il le verrait. Et effectivement, à la manière dont il discutait, je sentais bien qu'il savait que les choses étaient particulières, et qu'il ne fallait pas en parler. Salut. Alors, comment ça se passe sur Los Angeles? T'es dans la merde à ce point-là? C'est un peu ça, comme tu peux imaginer. Sinon, je ne t'appellerai pas de cette manière. Dommage. Ça te réussissait, Los Angeles. Je suis tes progrès sur Ubriel. Bravo, bon travail. Ah oui, tu m'espionnes. Oh, je t'espionne. Oh. Comme un vieil ami, je prends des nouvelles, indirectement, vu que tu ne m'en donnes pas. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Quelqu'un qui va intégrer l'IAMAS, forcément, ça t'intéresse. Ah, oh, tout de suite. Comme si j'étais vénal à ce point-là. Enfin bon. Tiens, d'ailleurs, tu vois, je suis sympa, cadeau. Tu veux des nouvelles de ta femme et de ta fille? Là, il m'avait séché. Je n'avais évidemment pas prévu la question, et donc encore moins la réponse. Il dut sentir ma gêne, aux quelques secondes de silence qui suivirent, puis finalement, la réponse qui me sembla la plus appropriée. Non, non, j'ai d'autres choses à penser. Ouais, j'imagine. Bon alors, t'es dans les merdes jusqu'où? Au-dessus du plafond. Ah bah ça promet. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tiens, je te transfère un bout de vidéo. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de comprendre ce que le gars est en train de dire, mais j'y arrive pas. C'est quoi cette vidéo? Une vidéo surveillance. Évidemment, ça risque rigoureusement entre nous. On a fait venir un ponte, Thierry Desablos, un ponte de la sécurité, pour qu'il nous donne un coup de main justement sur notre petit problème. Il est reparti aussi vite qu'il est venu, après 3 mois de voyage. Ça lui a pris 30 secondes. J'aimerais bien savoir ce qui lui a échappé quand il a vu la chose. Ça nous permettrait de savoir. La chose? Oui. Bah celle-là, je préfère pas te la montrer. Je t'ai envoyé l'extrait. Il y a du bruit de fond, la caméra était loin. Difficile de savoir ce qu'il a pu dire. Si jamais t'arrives à traiter un peu ça, ça m'intéresserait aussi que tu puisses faire une recherche pour savoir ce que c'est, sans forcément qu'on sache que quelqu'un fait cette recherche-là. Même si c'est toi qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à moi. Sait-on jamais. Ok, ok. Allez. Je te rends service. Je te préviens, si c'est difficile, je laisse tomber. Pas de problème. S'il faut payer, on en reparle. Si c'est compliqué, je pourrais sans doute avoir du budget. Eh, bah c'est bien. Je pensais pas que sur Los Angeles, tu t'étais fait des ennemis puissants. C'est un peu ça. Bon, on se retrouve dans une semaine. Denis était plutôt content pour Gus. Et il me confirma que j'avais pris peu de risques en lui promettant de l'argent si jamais il pouvait nous aider. La chose ne bousait toujours pas. Nous étions sur des charbons ardents. Cette semaine a été particulièrement longue. Je ne savais pas que ce n'était rien par rapport à celle qui allait suivre. Salut Gus. Salut Loon. Bon, eh ben je suis content que tu utilises ton petit gadget, parce que ce que j'ai trouvé, effectivement, ça va pas te plaire. Je confirme, t'es dans la merde jusqu'au plafond, voire même au-dessus. Limite, t'es dans la merde jusqu'en orbite. J'adore tes résumés. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je te le dis, et je te le redirai plus. Je ne prononce pas ce mot. Je vais le prononcer une fois, et on va l'oublier. Il a dit, Euredust. Je connais pas. Oui, et bien moi non plus. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, et que ceux qui connaissent sont des gens pas très très fréquentables. C'est toi qui me dis ça. Ça n'augure rien de bon. Raconte. Tu sais, au moment de la grande colonisation, quand on a commencé à utiliser la technologie Tran pour passer d'un système solaire à l'autre. Tout ce qui existait devait être numérique. À l'époque, on disait, c'était limite une boutade, qu'un nouveau-né dont la naissance aurait été mal renseignée dans la base de données n'existait pas, et qui risquait de mourir assez rapidement, faute de soins, on ne pouvait pas s'en occuper, il n'avait pas d'existence. Eh bien, il y a un type qui écrivait des livres à l'époque. Les livres, tu sais, c'est pas juste le contenu, les histoires qu'on peut lire. À l'époque, c'était des objets qui étaient faits en papier. Tu connais ça? Ouais, comme toi, j'en ai vu au musée. Ouais. Bien à l'époque, les livres, il y a encore des gens qui en écrivaient, mais tout devait être digital. Les gens commençaient à ne plus avoir les objets. Lui, il continuait à écrire des trucs sur du papier. Il était assez connu d'ailleurs, hein. Ernest Arendish. Il écrivait la science-fiction. Si tu te renseignes discrètement sur lui, faf, oui, non, laisse tomber, il vaut mieux pas. En tout cas, il a écrit plusieurs livres, et puis un jour, le ciel lui est tombé sur la tête. Ça aussi, c'est un mot qu'il vaut mieux ne plus prononcer. Et son nom à lui est ce que je vais te dire. Ça s'appelle le cycle de Yom. Ça a tellement choqué les militaires de l'époque qu'ils ont décidé de tuer son livre. Ça veut dire quoi, tuer son livre? Bah, tuer son livre, ça veut dire qu'il ne serait pas numérisé, que personne n'avait le droit d'en parler sur le réseau, et du coup, évidemment, avec les années, on ne garde pratiquement aucune trace. Il disparaît. Il leur a fait tellement peur, ou alors il était tellement dangereux, qu'ils ont tué son livre. Et toi, alors, comment t'en as retrouvé la trace? Ben moi, figure-toi que, enfin voilà, il y a quand même un endroit au fin fond de certains dossiers secrets des militaires où j'ai pu trouver ça. Visiblement, c'est très très chaud. Et donc, l'objet dont tu me parles, j'imagine que c'est un objet, il a un nom, celui que je t'ai donné, et ce nom apparaît dans les livres de ce type. Et c'est quelque chose de tellement dangereux qu'on a décidé de tuer le livre, de le supprimer de la mémoire. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ouais, dans la merde jusqu'en orbite. C'est ça. Bon, ça a aussi une sorte de rapport avec les éco-terroristes. Vu que t'es sur Los Angeles, ça m'étonne qu'à moitié. Je sais pas de quoi ça parle ton truc, mais si tu veux, je peux creuser. Par contre, ça va coûter. Parce que là, je le ferai pas moi, et les gens à qui je vais faire appel... Enfin voilà, tu sais, les fameux infréquentables... Et puis, il n'existe aucune trace. Il faut retrouver l'objet physique ou des gens qui en ont la mémoire. Je te raconte pas. Plusieurs générations après, c'est des recherches qui vont être coûteuses. Pas de problème. Tu me dis ton prix, on saura avancer. Alors, ton mécène, là, faudra quand même lui expliquer. Là, je risque ma vie. C'est pratiquement le plus gros crime que t'es en train de me faire commettre. Donc, il y en a pour plus tous les gens qu'il va falloir que j'arrose. Il y en a pour un bon million. Ah oui, tout de même. Bon, je te passe un numéro de compte, on va faire comme ça. Soit dans la semaine, j'ai l'argent sur le compte, dans ce cas-là je creuse, et un mois après la réception de l'argent, tu me recontactes. Soit ça vous fait trop cher, et on s'oublie. Plus de service, plus rien. J'existe plus pour toi. Ça marche? Ça marche. Je te promets rien, mais je pense que ça doit être jouable. Merci. À dans 5 semaines, j'espère. Le hasard faisait bien les choses, on avait eu une grosse météorite, donc Denis avait trouvé le moyen de justifier le fait de venir au D-177. Il demanda à voir l'objet lui-même. Rien n'avait bougé. Il fut aussi impressionné que moi. Donc, ton Thierry Desablos, quand il a vu ça, avant de s'enfuir en courant, il a juré entre ses dents « Eurydust ». C'est un mot qui apparaît dans un livre écrit par un certain Ernest Arendish, « Le cycle de Yom », considéré comme tellement dangereux qu'on a voulu l'effacer de la mémoire. Qu'est-ce qu'on fait? On paye 1 million pour creuser, ou on oublie et on trouve un moyen de s'occuper de ça? Là, j'ai vu Denis hésiter. Je ne saurais jamais s'il avait hésité à cause de la somme ou à cause des implications de ce que je venais de lui déclarer. Et puis, au loin, pendant que le deuxième robot lumière venait, il a regardé l'espèce d'ombre qui se découpait, et il a dit « Faut payer ». Quoi que ce soit, on a besoin de savoir ce que c'est. Et visiblement, quelqu'un pourra nous l'expliquer. Thierry Desablos, je pense qu'on n'en entendra plus parler. Si jamais j'essaie de le contacter, à mon avis, il ne voudra pas. Il a simplement accepté le remboursement des frais. C'est moi qui avais payé le voyage. Depuis, plus aucune nouvelle. Ça sert à rien de le contacter. Quelques jours plus tard, 1 million était viré sur le compte de Gus, et l'attente commença. 1 mois. Encore pire que la semaine précédente. Une attente horrible. Tous les jours, j'allais voir la chose, pour voir si elle évoluait. Qu'est-ce qui pouvait être aussi grave? Qu'est-ce qui pouvait arriver aujourd'hui qu'un vieux, il y a 270 ans, avait pu raconter dans un bouquin qui avait fait peur aux plus hautes autorités? Décidément, Los Angeles me réservait bien des surprises. Sans rien y connaître, à la mallette que j'utilisais, les informations qui apparurent à l'écran quand j'appelais Gus pour la 3e fois, me firent néanmoins assez rapidement comprendre que j'avais appelé Gus, et qu'en réalité, il avait transféré la ligne et que j'allais me trouver face à quelqu'un d'autre. En gros, le système était en train de mouliner pour faire en sorte que le décryptage ne soit plus sur le poste que j'avais appelé, mais sur le poste vers lequel on m'avait transféré. La voix était déformée électroniquement. En gros, Gus avait trouvé la bonne personne, sortait du jeu, et j'avais en face de moi quelqu'un encore plus parano que lui. Lune et Remedies. Oui, Je suppose que vous avez compris que Gus me renvoie directement vers vous. Oui, tout à fait. Bien. Il y a un mot à ne pas prononcer. Je pense que c'est autour de ce mot que nous devons discuter. J'espère que ça sera plus que de la discussion. Nous avons payé très cher pour avoir des informations. Oui, je sais. Et ça, vous allez en avoir. Il vous a parlé du cycle de Yom? On m'a surtout dit de ne plus prononcer ce mot-là, ni celui qui avait écrit, ni le mot précédent. Oui, il a raison. Enfin bon, de toute façon, je crois comprendre que votre ligne était parfaitement protégée. On ne sait jamais, je maîtrise pas ce genre de technologie. Très bien, enfin, Gus avait l'air de vous faire confiance, alors je vous fais confiance aussi. Il s'agit effectivement d'un livre qui date d'il y a pratiquement 300 ans, qui a été effacé des mémoires, ou en tout cas, les autorités de l'époque ont voulu l'effacer des mémoires. Je sais pas si vous vous souvenez de votre histoire des premières ères technologiques et spatiales, mais je vous laisse imaginer, pour que toutes les autorités, à l'époque, qui étaient encore nombreuses, et qui parfois se faisaient la guerre, soient d'accord pour mettre à l'index un livre, et surtout ni son auteur, ni les autres livres, de façon à ce que ça se fasse le plus discrètement possible. Oui, j'y avais pas pensé. Ça signifie que les implications étaient importantes. C'était un auteur de science-fiction. On a une trentaine de livres de sa part, un peu de tout. Généralement, il parlait de l'espace et il utilisait ce qui se passait dans l'actualité. On était en pleine phase d'expansion, de colonisation. Le cycle dont on parle est composé de trois livres. Le premier s'appelle Kafté. C'est l'espèce de traduction d'une langue indienne de l'époque qui veut dire aube. Le deuxième s'appelle Le Crépuscule. C'est malheureusement le seul qui est arrivé jusqu'à nous. Le troisième s'appelle Apocalypse. Ça vous donne une idée de ce dont nous allons discuter. Les mots, effectivement, sont peu plaisants, mais on parle d'une œuvre de science-fiction. Eh bien, oui, et en fait, peut-être pas. En quoi une œuvre de science-fiction, parmi une trentaine d'autres, a pu être jugée suffisamment dangereuse pour qu'on décide de l'effacer et qu'on y arrive? Aujourd'hui, ce cycle, ces titres, ce mot interdit, n'apparaissent nulle part, à part dans un ou deux dossiers militaires ultra secrets que Gus a réussi à dégoter, et puis, en parallèle, dans la mémoire de certains, retransmis oralement, parce que les livres eux-mêmes n'ont pas tenu aussi longtemps, nous n'avons pas voulu les digitaliser, nous n'avons pas voulu écrire quoi que ce soit sur n'importe quel ordinateur, même débranché du réseau, et acheter du papier aujourd'hui pour le recopier coûterait beaucoup trop cher, et ceux qui auraient pu le faire il y a longtemps ne l'ont pas fait. C'est donc une histoire que l'on se raconte oralement depuis plus de 10 générations. Alors forcément, tout ce que je vais vous dire, c'est succinct et peu sûr. Pourtant, nous sommes tous d'accord sur les grandes lignes. Et globalement, ça explique ce qui a pu se passer il y a un peu moins de 300 ans, et la réponse des militaires. Maintenant, je dois vous prévenir. Ce genre de révélation, c'est un petit peu comme si, même si les militaires ne vont pas le savoir tout de suite, vous ajoutiez votre nom à leur liste noire. Vous êtes un éco-terroriste. Je suis un défenseur du grand équilibre. Oui, pour les militaires, c'est la même chose. Et pour vous? Je ne fais pas de politique. Là, il ne s'agit pas de politique. Vous êtes sur Los Angeles. Les choses, peut-être, ont pris dans votre esprit une tournure particulière depuis la vie que vous meniez avant. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Eh bien, je ne sais pas, le rapport, à la nature, les anges. Vous les avez vus, les anges? Enfin, des formes, de loin. Bon, et alors? Alors quoi? Eh bien, le fait que nous ayons volé leur planète, que nous les ayons décimés? Comme je vous le dis, je ne fais pas de politique. Soit, je ne tenterai pas de vous convaincre, mais soyez sûr de vouloir connaître l'histoire. On peut encore couper la ligne, je disparais et vous m'oubliez. Non, c'est impossible. J'ai la chose dans mon entrepôt. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. En tout cas, je m'en suis douté. C'est assez émouvant pour moi d'entendre cela. Alors, vous êtes prêt à la révélation? Arrêtez d'utiliser votre salmigondi plus ou moins religieux. Venez-en au fait. Je suis responsable de la sécurité de cet entrepôt. J'ai cette chose en plein milieu. J'ai juste besoin de savoir ce que c'est, ce que ça fait, et de m'en débarrasser. Voilà. Ce que c'est, je peux vous raconter ce qu'il y a dans un livre écrit il y a 270 ans. Derrière, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Ce que ça fait, bien ma foi, même chose. Quant à vous en débarrasser, bien en fait, en fonction de la manière dont vous allez prendre ce que je vais vous raconter, c'est une question qui pourra vous paraître totalement absurde si jamais vous prenez les choses un petit peu comme nous les prenons. Je vous écoute. Ce cycle commence par l'aube, c'est-à-dire la naissance. La naissance, c'est en train de la vivre, c'est, d'une certaine manière, l'arrivée d'un œuf. Là, bizarrement, le blanc fut plus important. Pourtant, la liaison n'était qu'audio, il ne pouvait pas voir mon visage. Et pourtant, j'en suis sûr, si jamais j'avais été face à un miroir, j'aurais vu mon visage se décomposer. Un œuf. La chose était tellement énorme, je n'y avais même pas pensé. Ridicule, mon histoire de carotte. Effectivement, un œuf, un peu écrasé sur le dessus, ou s'il avait été parfaitement oblongue, peut-être que, oui, l'idée me serait venue, mais de cette taille-là, ça paraissait complètement incroyable. Au fond, peut-être que la carotte m'était venue à l'esprit simplement parce qu'elle représentait moins de danger. Si j'avais tout de suite eu la vision de l'œuf, j'aurais eu peur de ce que ça signifiait, de ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un peu comme si brutalement j'étais en état de choc. Je pense que il se doutait de ce qu'il venait de me balancer, et j'accusais le coup. Il y eut plusieurs secondes de silence avant qu'il ne reprenne, comme si de rien n'était. Et à partir de ce moment-là, j'eus l'impression que ce genre de révélation était pour lui quelque chose d'habituel. Il balançait des informations, puis, après certaines, laissait un silence s'installer, comme pour que son interlocuteur réfléchisse ou se remette de l'uppercute qu'il venait de prendre en plein visage. Donc, vous avez un œuf au milieu de votre entrepôt. Cela va prendre du temps, mais à un moment, il va éclore. Et ce qui va en sortir, c'est le nom que l'on vous a donné au début. Enfin, ce nom désigne soit l'œuf, soit ce qui va en sortir. Une créature. Le terme de créature est un peu particulier. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Enfin, vous êtes sur Los Angeles, je vous ai parlé des anges tout à l'heure. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? De nouveau, nous arrivons sur un champ qui ne m'est guère familier. Bon, ok, oublions les fantômes, les anges, bref. En tout cas, quelque chose va en sortir. Ce quelque chose sort de cet œuf. L'œuf vient de la planète. En fait, toute l'histoire de ce cycle, c'est la manière dont la planète, qui est considérée comme une entité vivante, va se venger des déprédations qu'elle a subies de la part des hommes. L'histoire qui est racontée dans ce livre il y a 270 ans ne se passe pas sur une planète dans l'espace. Elle se passe sur l'ancienne Terre. C'est un peu comme si il avait prévu ce qui allait se passer quelques dizaines d'années plus tard, la grande destruction. Son histoire, c'est donc la vengeance de Gaïa. Gaïa, notre mère à tous, qui au bout d'un moment finit par ne plus supporter d'être détruite, polluée, violée. Alors, dans un dernier sursaut, avant que s'éteigne sa dernière étincelle de vie, elle va créer cette créature, cette chose. Elle va créer un Eredost. Quand il va éclore, celui-là est là pour se venger. On parle bien de vengeance dans ce livre, car selon lui, ceci arrive à un moment où la planète est pratiquement sur le point de mourir. La première étape est donc une étape de vengeance, de destruction. De destruction, bien sûr, des criminels, ceux qui l'ont violée, ceux qui l'ont détruite. Voilà pourquoi son premier livre s'appelle « Aube ». Dans son premier livre, il décrit, en gros, Gaïa depuis sa naissance, au moment de la création de l'univers, ou un petit peu après, jusqu'au moment où l'homme s'apprête à aller détruire d'autres planètes, ailleurs, dans l'espace, après avoir pratiquement détruit Gaïa. Le premier livre s'arrête au moment où l'œuf, ou les œufs, on ne sait pas bien, émerge. Visiblement, sans qu'on le sache, sans que ça soit visible. Sur l'ancienne Terre, ce n'était pas bien difficile. Vous avez la chance, ou la malchance, de l'avoir sous les yeux. Le troisième livre, eh bien ma foi, je pense qu'il est inutile de vous le décrire, vu le titre qu'il porte. Le deuxième s'appelle Crépuscule, car il n'y parle pas de Gaïa, il parle de notre civilisation. Le crépuscule de notre civilisation, attaqué dans ce qu'elle a de plus fondamental par les Eredust. On parle de massacre, on parle de destruction. Tout à l'heure, vous me posiez la question d'une entité, comme si de l'œuf pouvait sortir un monstre ou un dragon. En réalité, il s'agit plutôt de l'esprit vengeur de Gaïa. Et donc, les calamités qui vont s'abattre sur les hommes sont de toutes formes, depuis effectivement la mort de certaines personnes, jusqu'à de grands tremblements de terre qui ravagent complètement certaines régions. Ceci, on pense que c'est arrivé à la Terre, ce que l'on a appelé la Grande Destruction, environ 40 ans plus tard, que ça a pu se reproduire sur deux ou trois autres planètes qui ont été outrageusement exploitées depuis, et qui, bizarrement, ensuite, ont été mis sous quarantaine, dont on ne parle plus. Un peu comme s'il était arrivé la même chose, et comme si nos chers militaires et nos chers gouvernants tenaient absolument à ce que cela reste secret. Vous imaginez la panique si les défenseurs de l'équilibre avaient raison, et s'il fallait expliquer à la population que partout dans l'univers, sur toutes les planètes, où on continue à jouir de la société de consommation telle que nous la vivons aujourd'hui, il y a la menace de vengeance de la planète elle-même. La suite de la discussion fut à peu près similaire. Je sentais qu'il faisait des efforts pour ne pas essayer de vendre sa chapelle. Peut-être était-il trop haut dans la hiérarchie pour avoir lui-même besoin de faire du prosélytisme. Néanmoins, je sentais qu'il cherchait à me convaincre que quelque chose pouvait peut-être sauver mon âme, que j'étais peut-être en train de voir de mes yeux un événement qui lui donnerait raison. Ça faisait beaucoup pour moi. Un peu comme avec Gus, je coupais la ligne après avoir défini qu'on ne se parlerait plus. Il allait maintenant falloir que j'explique tout ça à Denis. Est-ce qu'on y croyait ou pas? Est-ce que ceci était la vengeance de Los Angeles, annonciateur de destruction? Ou est-ce que c'était autre chose? Est-ce que ce genre de phénomène n'avait pas été utilisé justement pour plaquer une histoire de science-fiction? Et pourtant, ce qui était arrivé au cycle de Yom était étonnant. Le simple fait de vouloir l'effacer de la mémoire donnait du crédit à ce qu'il racontait, même si, 10 générations plus tard, ce qu'il avait raconté était peut-être totalement différent de ce que j'étais moi-même en train de lui raconter, à ce pauvre Denis. Qu'il en était devenu tout blême. C'est un peu comme si je lui avais annoncé que la planète allait être détruite et qu'il allait falloir l'évacuer. L'idée sur le moment ne m'était même pas venue. Aujourd'hui, quand je regarde les ruines qui m'entourent, j'attends le vaisseau qui va m'emmener, sans doute le dernier humain, à évacuer la planète avant sa mise en quarantaine. Tout cela me paraît bien ironique. À l'époque, difficile de savoir si j'avais cru ce que l'on m'avait raconté ou pas. Aujourd'hui, forcément, les choses sont différentes. Oh, je ne parle pas de la cause de ce qui est arrivé. Ça, je pense que personne ne peut le savoir. C'est une question de croyance. Mais en tout cas, quelles que soient les raisons, le résultat est là. Los Angeles a effectivement été dévasté. L'histoire que j'avais racontée à Denis l'avait secoué. Et moi-même, je dois avouer, je n'en étais pas vraiment ressorti indemne. Pendant plusieurs jours, je n'osais plus aller voir la chose. Denis, bien sûr, c'était différent. Il était remonté en orbite. Il était protégé, s'il devait croire à ce que j'avais pu lui raconter, ou tout au moins à la version éco-terroriste, un petit peu mystique, de ce que je lui avais raconté. Moi, je devais vivre à côté. Si jamais quelque chose arrivait, je serais au premier rang, même en première ligne. Le quatrième jour, quand je retournais voir le Red Dust, mon cœur se figea. Il avait éclos. C'était clair, ça avait bien une forme d'œuf, et maintenant, le haut s'était cassé. Puis, le reste s'était effondré de chaque côté. J'avais maintenant un trou dans mon sol de verre, et autour, des morceaux de basalte, explosés, à plusieurs mètres à la ronde. La violence avait dû être incroyable. Et surtout quand je voyais l'épaisseur du basalte, je n'osais réfléchir à la créature qui, à l'intérieur de cet œuf, avait réussi à en sortir en le faisant exploser de cette manière-là. À ce moment précis, je ressentis que mon heure était arrivée. Je m'attendais à entendre les bruits de griffes sur le verre derrière moi, ou à voir une ombre brutalement s'intercaler entre le robot lumière et moi. Il me fut extrêmement pénible de rejoindre mon bunker. Je passais mon temps à me retourner. Le simple bruit des robots, pourtant habituel, me faisait tressaillir. Denis fut parfait. Sa première question fut « Je vous fais évacuer ?» Malheureusement, ça n'était pas une solution. Et puis, s'il y avait une menace, j'étais peut-être quand même le mieux placé pour essayer de la contenir. Les plans se mirent en œuvre. Bizarrement, c'est seulement à ce moment-là que l'on réfléchit au fait de camoufler l'événement. Cela faisait plusieurs mois que l'on vivait avec ça, au milieu d'une zone vide de mon entrepôt, craignant tous les jours que mes deux comparses le découvrent ou que les robots fassent un rapport. Nous avions eu une chance folle, ça n'était pas arrivé. Et maintenant que nous avions une idée de la menace, et qu'elle était presque réelle, puisque la chose était libérée, C'est le moment que nous avions choisi pour réfléchir à comment cacher la chose et pour trouver la solution finalement assez simple. Enfin, assez simple, grâce à Denis. Encore une fois, il était capable de faire des choses qui m'étonnaient. Mais bon, passons. L'idée, effectivement, en y réfléchissant, on aurait voulu le faire avant, la solution que nous avions trouvée ne marchait pas. La chose était plus haute qu'un conteneur. Maintenant, il n'y avait plus qu'un trou avec des débris. Je pouvais assez facilement regrouper les débris autour du trou. L'idée était de poser un conteneur dessus, avec une fausse étiquette. Un conteneur du coup que personne ne viendrait jamais acheter et qui resterait là, ad vitam aeternam. Il fallait simplement le trafiquer un peu, parce qu'il n'y avait évidemment pas seulement le trou dans lequel je pouvais essayer de mettre quelques restes. Il y avait des morceaux de basalte qui ne rentraient pas dans le trou. Et puis la collerette en verre, au pied de l'œuf, dépassait encore facilement de 20 à 30 cm. Il fallait donc trouver un conteneur, un faux, lui mettre une étiquette, creuser le fond, ou faire en sorte que le fond puisse s'escamoter au moment où le robot poserait le conteneur sur le trou. C'est presque en souriant que je dis à Denis qu'un grignoteur aurait pu nous aider. Cette fois-ci, la liaison avait la vidéo, et je vis que ma plaisanterie n'était pas à son goût. Il fallut encore quelques jours pour organiser cette mystification. Et cela faisait donc plus d'une dizaine de jours que j'avais découvert l'éclosion quand l'accident arriva. Un problème logistique, un conteneur qui se détache, un robot peut-être un peu vieux ou une erreur de programmation, et l'un de mes deux responsables logistiques qui meurt écrasé. Dans n'importe quelle circonstance, ça aurait été un drame. J'ai presque envie de dire, ça aurait simplement été un drame. Mais là, forcément, la coïncidence nous serrait la gorge. Denis et moi n'osions plus parler de la chose et de la discussion que l'on avait eue sur le fait de savoir s'il fallait prévenir les militaires, s'il fallait prévenir la hiérarchie. Et si à un moment nous allions être capables peut-être de combattre cette menace qui peut-être n'existait pas. La mort d'un homme, sur Los Angeles, est suffisamment rare et le nombre d'hommes est suffisamment limité pour que ça fasse du bruit. Et forcément, les militaires n'allaient pas tarder à débarquer, craignant un quelconque sabotage de la part des éco-terroristes, peut-être de ces fameuses communautés cachées dans la montagne, dont on ne sait même pas si elles existent réellement. Les semaines qui suivirent furent les pires de ma vie. C'est triste à dire vu ce qui s'est passé par la suite, mais je prenais les choses pour moi et il y en avait trop. Déjà le fait de remplacer la personne décédée, de réorganiser la logistique, de mettre en place les éléments pour l'enquête, administratif, financier, assurance, tout ça c'était beaucoup de boulot. Moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je n'avais pas de peine personnelle pour celui qui était mort. Et quelque part ça m'avait quand même touché. Enfin tout ça, c'était, je vais pas dire la routine, vu que ça n'était jamais arrivé jusque-là, mais en tout cas, il existait des procédures. Derrière, fallait organiser l'arrivée des militaires, ils n'allaient pas tarder. Et là, pareil, une certaine routine, sauf que j'avais la peur au ventre. Entre-temps, le fameux conteneur truqué était arrivé. J'avais trouvé un moyen de le placer, et on commençait à mettre d'autres conteneurs autour. Je ne me rendais plus sur place. Voilà, c'était fait. Mais qu'est-ce qui était fait? Depuis, c'est un peu comme si une grosse machine s'était mise en route. Toute la journée, en plus de mon travail habituel, je devais donc gérer ces deux dossiers-là, sachant que le deuxième, l'arrivée des militaires, me faisait froid dans le dos. Le moindre interrogatoire, il risquait de voir que je n'étais pas à l'aise, ou je savais quelque chose. Oh, je ne m'imaginais pas être sur une liste de suspects, mais bon, avec les militaires, on ne sait jamais. Les journées étaient particulièrement chargées, et que dire des nuits? Des cauchemars. Mon troisième dossier, le Red Dust. Est-ce que peut-être ils continuèrent à rôder à l'intérieur de l'entrepôt? Je me surpris à y aller moins, et à y aller avec peur, presque à reculons, comme s'il était là, pas loin. J'écoutais venir les robots transporteurs, et assez régulièrement, changeais de trajectoire pour ne pas passer en dessous. J'étais en train de devenir paranoïaque. Mes nuits étaient tellement agitées que le matin j'étais épuisé. Le sixième jour, quand le représentant militaire arriva, il me trouva dans un tel état de fatigue qu'il eut presque pitié de moi. Je pense que ça m'a sauvé. Si j'avais été dans un état normal, il m'aurait sans doute interrogé comme il le fait normalement, dans le cadre de la procédure, et la peur au ventre, j'aurais peut-être craqué. Alors que là, de me voir dans un état aussi pitoyable, eh bien disons que il se montra relativement indulgent. Et puis, il était lui-même pas très à l'aise. C'était un placone, et son enquête l'obligeait à rester longtemps dans l'entrepôt. Il souffrait d'avoir un respirateur avec cette atmosphère particulièrement corrosive. Du coup, les choses allèrent assez vite. Il ne resta que 2 jours. Je soufflais. Un dossier de moins. Malheureusement, ça n'arrangeait pas mes nuits. Et je continuais à avoir peur. Voilà comment je fus touché au démarrage de la vengeance de l'Eredust. Après, je n'ai pas honte de le dire. Quand les choses prirent une autre ampleur, c'est presque avec soulagement que je vis la menace s'éloigner. Ça ne tarda pas. Quelques jours plus tard, c'est un accident dans l'espace qui arriva. Quelque chose de rarissime. La collision de deux transporteurs. Ces petits vaisseaux qui faisaient la navette entre les gros vaisseaux de transport qui restaient en orbite basse et les entrepôts. Pas de morts, mais des dégâts. Déjà, toutes les marchandises qui avaient été détruites pour la compagnie avec les assurances, du boulot et de l'argent en moins. Et puis, les déchets qui, traversant l'atmosphère, étaient tombés, comme par hasard, si l'on peut dire, sur un entrepôt, faisant des dégâts encore plus importants que si une énorme météorite était tombée. Et ça n'était que le début. Quelques jours plus tard, le suicide du responsable de la sécurité du dit entrepôt. Et puis, encore, un petit peu plus tard, une mise à jour buggée, en tout cas c'est ce qu'on nous a expliqué, qui fit que, dans la plupart des entrepôts, les robots qui prenaient les containers pour les placer s'en mêlaient les pinceaux. Collision, chute, accident. Deux humains furent tués. Et là encore, la pagaille, et pour la compagnie, perte de temps et destruction de marchandises. Depuis mon compte-rendu sur la visite du militaire, je n'avais plus appelé Denis, et lui non plus. Lui devait certainement être débordé par tout ce qui se passait, et moi je n'avais guère envie de l'appeler, sachant très bien vers quoi la discussion allait dériver. À chaque fois que j'y repensais, je réentendais le récit de mon éco-terroriste, qui m'expliquait que la vengeance par les Eredust avait commencé par les fondements de la civilisation sur Gaïa. L'image était forte. Ici aussi, les catastrophes s'attaquaient au fondement. L'argent. La compagnie était frappée dans ce qui était le plus important pour elle. Qu'il y ait des morts, je ne vais pas dire qu'ils y étaient insensibles, mais le simple fait que les procédures existent signifiait qu'il y avait un risque connu et maîtrisé. Et ça coûtait certainement moins cher que de voir tous ces containers détruits. Ensuite, il y eut ce mini tremblement de terre. Et là encore, l'enchaînement des choses, quand on y réfléchissait sous un certain angle, faisait froid dans le dos. Cette fois-ci, ce n'est pas un entrepôt qui fut frappé, mais une zone de radar, celle qui permettait de guider les vaisseaux. Le temps de la remplacer, là, c'est un accident d'une toute autre ampleur qui arriva. Une météorite, gigantesque, dont on avait mal calculé la trajectoire, et qui frappa un vaisseau. Un vaisseau de transport, les gros, ceux qui traversent l'espace. Il venait à peine de se mettre en orbite basse. Là, de même, les dégâts furent énormes, car il s'écrasa au sol. Le nombre de morts fut beaucoup plus important, car il y avait des humains à bord de ces vaisseaux de transport. Et puis, en termes de coûts, je n'osais même pas y réfléchir. Et bien sûr, je dis bien sûr, enfin, vous me comprenez, le vaisseau s'était écrasé sur un entrepôt, et qui plus est, sur un entrepôt de matériel technologique, cher, avec une zone militaire. On avait presque peur qu'il y ait des rejets radioactifs ou des choses comme ça. Bientôt, il n'y eut plus une journée sans son lot de catastrophes. Souvent des problèmes de robots, des problèmes de vaisseaux, des destructions, mais des morts aussi. Le mien n'avait été que le premier. La liste commençait à s'allonger. De plus en plus de mes collègues rompaient leur contrat et demandaient à partir. Les relations avec la compagnie devenaient de plus en plus tendues, car bien sûr, ils ne pouvaient pas accepter et pouvaient difficilement retenir des gens contre leur gré, surtout quand il y avait des catastrophes. Et bien sûr, plus les gens partaient, plus il y avait de catastrophes. Nous rentrions dans une espèce de cercle vicieux, absolument infernal. Et je voyais les choses se désagréger au fur et à mesure, repensant sans arrêt à ce que j'avais appris sur l'histoire des Eredust. Los Angeles était en perdition. Nous étions en perdition. Et la compagnie, si elle restait trop fort accrochée à Los Angeles, risquait aussi d'être en perdition. Je n'étais toujours pas résolu à recontacter Denis. De toute façon, il devait avoir encore plus de travail que quelques semaines auparavant. Nous avons reçu un petit nouveau. Ah, je pense qu'il faisait bien les choses, même s'il n'était pas responsable de la logistique. Après tout, mon gars était parti, il avait été remplacé. J'avais toujours deux responsables de la logistique, et bizarrement, j'avais l'air d'être un petit peu à l'écart des catastrophes. Rien ne m'était arrivé. C'est moi qui avais eu le premier incident, mais depuis, j'étais préservé. C'est peut-être cela qui me poussait à garder mon silence. Seulement, une phrase, au passage, d'un nouveau, qui venait d'arriver, fit basculer toute l'histoire. Nous étions en train de lui raconter un petit peu l'histoire de Los Angeles, une sorte d'introduction, comme j'en avais eu une moi-même au tout début, avant que, devenant poissard, mes deux collègues ne me tournent le dos. Et le nouveau, à un moment, fit la remarque « C'est bizarre, tous les soirs, vous me dites que, en regardant le soleil couchant, vous voyez les anges s'envoler au loin, moi je ne les vois pas. » Étonnés, nous reprîmes une habitude que nous avions perdue. se retrouver pour regarder le coucher du soleil, regarder l'envol des anges. J'avais fini par presque trouver ça joli. Mais là, rien. Plusieurs jours d'affilée. Au bout de 10 jours, il fallut se rendre à l'évidence. Plus d'anges dans le ciel. Ni le matin, à l'aube, ni le soir, au coucher du soleil. Quelque chose était arrivé. Et pourtant, là-bas, loin, dans les montagnes, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas de vaisseau. Eux n'auraient pas dû être touchés par les catastrophes qui arrivaient. Cela me frappa, et j'appelai Denis. C'est un peu honteux, mais la manière dont sa secrétaire me reçut, visiblement, elle avait des ordres. Où qu'il soit, quel que soit ce qu'il était en train de faire, elle devait l'interrompre pour que nous puissions discuter. C'est seulement par la suite que cette fierté me fit un petit peu honte. Ça voulait sans doute dire qu'il attendait mon appel depuis un petit bout de temps. Peut-être pour le réconforter. Après tout, moi je n'avais guère de mauvaises nouvelles à lui annoncer. Seulement là, la discussion prit une tournure qu'il n'avait sans doute pas imaginée. À ma question, est-ce que tu crois aux fantômes? Le silence de sa réponse se fit long. Très long. Je pense qu'il était en train de réfléchir, non pas à ce que j'avais bien pu pouvoir dire, mais à ce que lui allait bien pouvoir me répondre. Peut-être même, pour la première fois, depuis qu'il avait entendu parler de Redust, se posait-il sérieusement la question, est-ce que j'y crois? Il n'a pas répondu. Puis, pour détendre l'atmosphère, nous avons parlé de choses et d'autres, mais, visiblement, mon appel et cette question l'avaient ébranlé. Nous prîmes l'habitude de nous appeler tous les jours. Après un silence aussi long, ça avait dû étonner la secrétaire. Je n'avais pas grand-chose à lui raconter. En fait, pour lui apporter un peu de fraîcheur, je lui parlais des progrès que faisait le petit nouveau, qu'il avait trouvé le moyen de m'envoyer, pour la logistique. Lui, de son côté, évitait de me parler trop précisément des catastrophes qui l'accablaient. Tous les jours, il y en avait. La liste, de plus en plus longue, je la connaissais. Il s'en doutait. Les informations circulaient sur le réseau interne. Non, il prenait plutôt presque plaisir à me raconter toutes les tracasseries que cela impliquait pour lui, que ça soit avec les militaires, les clients, les assurances, et puis évidemment, toute la pression qu'il pouvait avoir de la compagnie. Il avait l'air de bien tenir le coup, et au fil des jours, la question que je lui avais posée finit par être oubliée. Moi aussi, oublier cette histoire d'ange qui ne volait plus. En fait, nous étions presque deux amis qui faisions face à une crise, lui là-haut, devant tout gérer, moi en bas, essayant de le réconforter. Le Redust avait presque fini par sortir de notre esprit, tant nous nous étions habitués à toutes ces catastrophes, les unes derrière les autres, sans raison apparente. Combien de temps est-ce que cela aurait pu durer? C'est un petit peu comme au casino. On perd, alors on continue à jouer, tentant de nouveau sa chance pour se refaire, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en caleçon, à la fin de la soirée, sur le trottoir. Rares sont ceux qui savent s'arrêter. Je ne parle évidemment pas de ceux qui savent s'arrêter alors qu'ils gagnent. Là, je parle de perdre. La compagnie, visiblement, n'avait pas pris de décision. Et Denis non plus. Est-ce que lui pouvait prendre des décisions après tout? Lui remontait les informations. C'est la compagnie qui décidait. Et la vie continuait, avec toujours plus de catastrophes, tous les jours, toujours plus d'impacts financiers. La planète était tellement grande, Los Angeles comportait tellement d'entrepôts, des entrepôts tellement grands, il y avait tellement de mouvements, tellement de vaisseaux, tellement de containers. Peut-être après tout que tout cela ne représentait que quelques pourcents du chiffre d'affaires. C'était négligeable. Je ne parle évidemment pas des morts. Ça, de toute façon, ça ne rentrait même pas en ligne de compte. Plus tard, j'utiliserai ce terme, ensorcelé. Et Denis, finalement, me donna raison. Oui, nous étions ensorcelés. Alors que quelque chose était en train d'arriver, un engrenage fatal, les deux seuls qui avaient peut-être la compréhension de ce mécanisme, les deux seuls qui auraient pu à un moment peut-être faire quelque chose, regardaient, fascinés, les tours s'écrouler les unes après les autres, sans rien faire. Comme si effectivement, pour que la catastrophe aille à son terme, on nous empêchait de faire quelque chose. On nous voilait les yeux. Comment avons-nous pu être aveugles, sourds et surtout aussi totalement apathiques? Incroyable, a posteriori, quand on dresse le tableau global. Il fallait quelque chose pour nous réveiller. Et heureusement, cette chose a fini par arriver. C'est Denis qui m'a appelé. Ça m'a fait tout drôle. J'ai tout de suite senti monter l'inquiétude. Car d'habitude, c'est moi qui le contactais. C'était pas logique. Il aurait dû lui m'appeler quand il avait le temps. Mais, au contraire, je crois que ça l'amusait que je puisse l'appeler à peu près à n'importe quelle heure, qu'il soit obligé au milieu de ces réunions très importantes de dire « Excusez-moi ». Ça me flattait, mais ça devait surtout l'aider lui à montrer à tous les gens qui lui cassaient les pieds à longueur de journée qu'il y avait quelqu'un d'encore plus important. Ce matin-là, c'est lui qui m'a appelé pour me dire que les militaires avaient des questions à me poser et qu'ils allaient venir sur le D-177. De nouveau, le Redust entra dans nos esprits. De nouveau j'eus peur de ce qu'il y avait caché sous un conteneur, quelque part, là-bas, au milieu de l'entrepôt. Eux venaient simplement me poser quelques questions sur l'accident qui était arrivé plusieurs mois auparavant. Quelqu'un, visiblement, avait fait l'histoire de ces catastrophes et avait découvert la première, peut-être celle qui avait tout déclenché, et souhaitait revenir aux sources pour avoir mon avis. Pas une bonne idée. J'avais peur que ça ramène vers moi les catastrophes. J'avais peur de craquer de nouveau si j'allais fouiner un petit peu, poser des questions. Enfin, moi, je ne serais pas seul. J'avais maintenant deux compagnons, on s'entendait bien, ils étaient jeunes, on avait intérêt à se serrer les coudes. Au moins de ce point de vue-là, je n'avais plus à combattre la solitude. Oui, la solitude, parce qu'évidemment, la limite avait été coupée. Plus question d'aller me promener 2 à 3 heures par jour dans Ubriel. Je sais pas ce que pourrait en penser Liamas, mais en tout cas, il n'était pas encore devenu citoyen. Il y a belle lurette que je ne pensais même plus à aller me promener dans les villes virtuelles en prévision de ma candidature. Enfin, je ne serais pas seul pour recevoir les militaires. Et de toute façon, l'accident était arrivé il y a tellement longtemps, il n'en restait plus aucune trace. Même s'ils avaient voulu trouver quoi que ce soit, depuis, des conteneurs avaient été posés et déplacés à l'endroit où c'était arrivé. Attendons. Néanmoins, je n'étais guère serein. Et de nouveau, toutes les nuits, les cauchemars reprenaient à cause de l'Oredus. Des emmerdeurs. Voilà. Oh, je m'en doutais. Ils venaient fouiller un peu. Par contre, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'étais devenu suspect. Et ça remettait les choses en perspective. Évidemment, eux n'avaient pas connaissance de l'Oredus. Et s'ils en avaient eu connaissance, peut-être que d'avoir à remplir un rapport avec ces histoires mystiques, bof, ils auraient préféré tourner autour d'un suspect et essayer de le faire arrêter. C'est à ce moment-là que le doute s'est vraiment immiscé dans mon esprit, cette histoire de Red Dust. Après tout, est-ce qu'effectivement ça n'était pas les éco-terroristes qui étaient derrière? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'engrenage infernal que l'on pouvait expliquer? Une personne qui manque? Et du coup la logistique plus difficile à gérer, et donc plus d'incidents, et ainsi de suite. Bien sûr, il y avait les coïncidences, l'énorme météorite juste après la destruction d'un radar, ou ce genre de choses. Mais après tout, ça arrive. Ça arrive, et puis, un éco-terroriste, c'est pas forcément quelqu'un qui vient tuer un grand patron, ou poser une bombe le long d'une usine. En repensant à Gus, qui m'avait renvoyé vers quelqu'un d'infréquentable, je me souvenais que aujourd'hui nous vivions dans un monde entièrement informatisé. La mise à jour buggée des robots, par exemple. Ça pouvait bien être un virus. Peut-être que derrière tout ça, il y avait un homme, ou un groupe d'hommes. Peut-être que le crépuscule de Los Angeles était inscrit dans le cycle de Yom, et que mon interlocuteur s'était simplement frotté les mains que quelque chose arrive. Non, mais non, je divaguais. Je l'avais vu. J'avais vu l'œuf, et ensuite, je l'avais vu éclore. Non, pas éclore. Je l'avais vu éclos. J'avais vu les restes. Me voilà devenu mystique. Me voilà en train de croire à quelque chose d'invisible, simplement parce qu'un bouquin a été écrit il y a 270 ans. Non, décidément, je ne tournais pas. C'est ces militaires qui me tournaient autour et qui me rendaient fou, alors que les choses auraient pu être toutes simples. Après tout, si j'oubliais cette espèce d'excroissance bizarre, je n'avais rien à me reprocher. Et simplement, il y avait eu un accident malheureux, un homme mort, ok, la première catastrophe d'une longue série. Mais je n'étais pas vraiment directement au cœur du cyclone au démarrage. Est-ce que j'essayais de me persuader pour mieux résister aux interrogatoires de ces deux imbéciles? Je ne savais pas. Je devenais fou. Leur départ fut une bénédiction. Impossible d'avoir la moindre idée de ce qu'ils pensaient ou de ce qu'ils allaient mettre dans leur rapport. Mais bon, en tout cas au moins, j'allais pouvoir me reposer et réfléchir un petit peu tranquillement à tout ça. Comme pour m'y aider, le hasard, le sort, la fatalité, comme on veut, prit la forme d'une énorme météorite qui cette fois-ci ne tomba pas sur l'entrepôt, mais sur la dalle d'atterrissage. C'était évidemment une catastrophe pour la compagnie, car cela voulait dire plus de 2 jours de travaux pour remplacer les dalles de béton, et donc 2 jours sans mouvement avec les conteneurs que je gardais jalousement. 2 jours où n'avait du coup rien d'autre à faire que de surveiller de loin les travaux à la fin, et au début surveiller l'arrivée des dalles de béton. De quoi réfléchir tranquillement. Pas sûr que Denis saisit rapidement la logique de ces 2 jours de calme où j'aurais pu avoir l'esprit un peu plus apaisé. Je me sentis obligé de lui reposer la question, mais de manière un peu plus insistante. Denis, est-ce que tu crois aux fantômes? En effet, la fois d'avant, il ne m'avait pas répondu. Mais là, brutalement, j'avais besoin de savoir. Est-ce qu'il n'y a que moi qui étais devenu fou? Nous étions 2 à connaître cette histoire de Redust. Il m'importait de savoir si le 2e y croyait, ou si, au moins, le fait d'y croire ou de ne pas y croire était un sujet auquel il réfléchissait, malgré les soucis et le travail qu'il avait vu s'accumuler sur sa tête à cause de cette histoire ou d'une autre. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Là encore, il esquiva. Sa réponse fut un retour à l'envoyeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fus alors obligé de lui expliquer la détresse dans laquelle j'étais. Est-ce que j'y croyais? Est-ce que j'y croyais pas? Est-ce qu'il s'agissait d'un complot, des éco-terroristes? Est-ce que peut-être quelque chose existait que notre technologie ne pouvait expliquer et dont nous étions victimes? Je fus assez surpris. Il ne s'était pas posé la question. Oui, on lui avait raconté une histoire. Oui, elle était effrayante. Et oui, depuis, il avait eu tellement de travail, tellement de soucis, tellement de rapports, tellement de paperasserie, tellement de responsabilités, qu'il n'y avait pas réfléchi. En réalité, en discutant, il se rendit compte qu'il attendait que ça se passe, qu'il espérait qu'à un moment, tout se calme, qu'il pourrait clore le dossier et reprendre sa vie d'avant. C'est un peu comme si, cette deuxième fois, ma question lui avait ouvert les yeux. Non, ça ne se calmait pas. C'était même de pire en pire. Les problèmes étaient de plus en plus nombreux, et les impacts aussi. Et pourtant, personne ne faisait rien. Ni lui, ni la compagnie. Tout continuait comme avant, on gérait simplement les catastrophes, comme si c'était des procédures normales. Ensorcelé. Ces militaires imbéciles m'avaient amené à me poser les vraies questions. Puis, cet accident, sur ma zone de déchargement, m'avait amené à poser à Denis les vraies questions. Et ce fut le début de la fin. Il y eut plusieurs jours où, pour la première fois, quand j'appelais, il ne me prit pas. Et, le quatrième jour, de nouveau, au petit matin, c'est lui qui prit l'initiative et qui m'appela. L'information n'avait pas été encore diffusée sur le réseau interne. Un gigantesque tremblement de terre, dans la zone la plus dense au niveau des entrepôts, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Une catastrophe d'une ampleur qui dépassait de loin tout ce qui était arrivé jusque-là, même l'accident du vaisseau qui s'était écrasé. Sa décision avait été prise et il tenait à ce que je sois le premier à être au courant. Loon, c'est la fin. Quelle qu'en soit la raison, effectivement, nous sommes arrivés au crépuscule de Los Angeles. Je fais évacuer, la compagnie fera mettre la planète en quarantaine. Je fus presque soulagé. Ils avaient gagné. Ils, qui pouvait-il y avoir derrière ce ils? Quelque part, j'avais fini par plus ou moins croire à leur Edust. En tout cas, j'avais du mal à croire entièrement au fait que ça ne soit que les éco-terroristes. Un petit peu comme une espèce de superstition qui planait. Enfin voilà, ils avaient gagné. Soulagé, bizarrement pas par la décision, mais par l'espoir que, ayant gagné, les catastrophes allaient s'arrêter. Après tout, leur but était atteint. Nous allions partir et laisser la planète à ses anges. Eh bien, pas du tout. Les catastrophes continuèrent, qui rendirent encore plus difficile l'évacuation. Car évidemment, en parlant d'évacuation, on ne parlait pas des humains. La compagnie elle-même, déjà, n'avait que faire de nous. Mais il fallait surtout évacuer les containers. Et là, du point de vue logistique, c'était quelque chose pour lequel il n'y avait jamais eu de procédure. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, car là, c'était sans arrêt les vaisseaux qui arrivaient vides, qui prenaient les containers et qui partaient. L'intérêt du point de vue logistique, c'est qu'on n'avait pas à se poser la question de quels containers. On les prenait tous, les uns après les autres. C'était long. C'était presque déprimant de voir le vide gagner au fur et à mesure dans mon entrepôt. Et pendant ce temps, toujours, les catastrophes de plus en plus nombreuses. Les entrepôts se vidaient les uns après les autres, et les humains commençaient à partir aussi. D'abord les marchandises dangereuses, les marchandises lourdes, les marchandises à forte valeur, et puis, bien évidemment, j'aurais dû y penser. J'étais étonné de voir que mes départs étaient moins nombreux, comme si j'allais faire partie des derniers à être évacués. Forcément. Là encore, Denis avait eu le bras long. Je devais forcément être le dernier à évacuer, car au moment du départ du dernier conteneur, celui dont nous avions seulement tous les deux le numéro, il y aurait quelque chose en dessous que personne ne devait voir. Je serai donc, avec mes deux collègues de la logistique, les trois derniers humains à quitter Los Angeles, après avoir vu partir les derniers containers, y compris celui-là. Informatiquement, Denis m'avait dit qu'il y aurait un accident et que ce dernier serait perdu. J'étais rassuré. Tout ça aurait pu se dérouler simplement, mais voilà. J'ai voulu faire cet enregistrement pour que vous sachiez, si jamais tout ceci est effacé de la mémoire, ce qui s'est réellement passé. Je ne parle pas de la cause, je parle des faits. Et vous laisse seul juge de savoir si les The Redust ont repris Los Angeles ou si ce sont les éco-terroristes. Mais un dernier événement m'a poussé à poser les faits si jamais un jour quelqu'un veut se pencher dessus. Il se faisait appeler Gaio, le masculin de Gaia. À un moment, je me suis demandé si c'est pas lui avec qui j'avais discuté suite à mon échange avec Gus. Bien sûr, la planète allait être mise en quarantaine. Et donc, encore plus qu'avant, plus personne ne pouvait venir y vivre. On avait vaguement cherché les communautés, on ne les avait pas trouvées. Je partirai avec mes deux collègues, les trois derniers humains. Mais Gaillot avait voulu, allez savoir pourquoi, fouler le sol de cette planète, voir les anges et forcer le blocus. Il l'avait attrapé et, après un jugement expéditif, avait déclaré sa peine de mort. Croyant l'humilier, mais en réalité réalisant son vœu ultime, ils avaient décidé de ne pas l'exécuter sur la planète et de l'enterrer là, mais plutôt d'abandonner son corps dans l'espace, ce qui lui avait fait grand plaisir car il ne voulait pas souiller un peu plus Los Angeles. C'était le jour de mon départ, c'est la dernière information que j'ai eue sur le réseau interne. La dernière information que j'ai eue sur Los Angeles, car derrière, je n'ai plus jamais voulu en entendre parler. À quelle distance est-ce qu'un Oredust peut agir? Le vaisseau militaire qu'il avait projeté dans l'espace n'est jamais revenu à bon port.